à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Barthélemy de Castelbajac et Jean Roch Augustin, je reçois aujourd'hui deux invités, deux amis, deux compères. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Barthélemy de Castelbajac, je commence par vous. Vous avez 28 ans. Vous êtes marié. Vous êtes rattaché à la paroisse de Saint-Étienne. Je crois que vous habitez à côté de Saint-Aubin. Vous êtes cadre dans le secteur agroalimentaire. Vous travaillez chez Orial. Quant à vous, Jean-Roch Augustin, vous avez également 28 ans. Vous êtes tous les deux très jeunes. Vous êtes marié. Vous avez deux enfants. Vous êtes également rattaché à la paroisse de Saint-Étienne. Vous êtes ingénieur de l'armement. J'ai noté que vous aviez fait l'ENS Cachan. Vous êtes cadre à la DGA à Toulouse, c'est bien ça. Vous êtes fondateur aussi et président de l'association à la rencontre des migrants.
Oui.
C'est bien ça. Et j'ai noté que vous aviez passé 2 mois aussi dans les bidonvilles de Calcutta. Donc vous avez déjà une expérience avérée dans l'aide aux plus démunis.
C'est sûr, oui.
Oui, bien. Alors, je vous ai demandé de venir tous les deux et vous avez très gentiment accepté parce que vous avez créé une association qui est relativement connue à Paris, mais qui l'est moins dans notre région, qui est l'association Hiver Solidaire, qui a été créée, je crois, en 2008 à Paris et qui a une cinquantaine de paroisses qui sont actives. Et donc, comment vous est venue l'idée de créer ça à Toulouse? Expliquez-nous d'abord comment marche cette association et comment, qu'est-ce que vous faites avec?
Alors, l'idée d'Hiver Solidaire, moi, je ne suis pas un vrai Toulousain, je viens de Paris. Et du coup, j'ai participé plusieurs fois pour aller aider à Hiver Solidaire à Paris, donc dans la paroisse Notre-Dame-des-Champs, dans le 14e. Et en arrivant à Toulouse, on s'est rendu compte que ça n'existait pas. Et donc, on a rencontré des Toulousains, comme Barthélemy, qui étaient partants pour le projet. Donc c'est vraiment de là que ça vient de Paris. Et on s'est dit, pourquoi pas à Toulouse, une ville assez dynamique avec une paroisse qui est assez dynamique, pourquoi pas lancer ce projet-là qui était existant. Et du coup, on en a parlé au Père Simon, le curé de la cathédrale.
Simon Darting, oui.
Exactement. Qui était assez partant, donc on lui a présenté le projet. Et en fait, voilà, il nous a dit que ce projet lui paraissait un peu démesuré, parce qu'on a quand même des centaines de personnes qui viennent pour accueillir quelques personnes dans la galère, des personnes de la rue. Et du coup, il nous a dit que c'était quand même beau, parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout ce côté efficace de l'aide aux personnes de la rue, mais il y avait un côté fraternel et un don sans objectif de réussite et de solution. Finalement, c'était juste un don gratuit envers des personnes qui sont dans des situations pas faciles. Voilà.
Barthélemy, vous faites quoi? Vous embarquez là-dedans? Vous êtes Toulousain?
Moi, je suis Toulousain, oui. Et j'ai été embarqué avec Emeric, un ancien coloc. On était coloc dans l'association Lazare à Toulouse. Ouais. Et c'est Jean-Roch et sa femme et Benoît Henry, qui sont les trois créateurs de ce projet à Toulouse, et qui sont venus nous dire pourquoi pas nous rejoindre et nous aider dans ce projet. Pour le développer et plus sur la partie comment dire accompagnement des gens de la rue pour trouver ces gens et pour mettre aussi à bien le projet.
Et alors ça a démarré quand à Toulouse? C'est l'hiver dernier, c'est ça?
On a fait déjà deux hivers. Donc c'était il y a 2 ans. On a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a fait de janvier à mars. Et l'année dernière, on a réitéré parce que c'était bien passé la première année. On a fait un accueil de 4 personnes de décembre à mars.
Ouais. Donc ça ne marche bien que l'hiver?
Oui, c'est le printemps. C'est le, oui, oui.
Et là, donc vous allez redémarrer à quel moment cette année?
Alors normalement en décembre encore. L'année dernière, on a eu quelques difficultés à trouver des bénévoles pour venir accompagner les personnes accueillies. Et du coup, voilà, c'était assez dur pour la période de Noël, forcément, parce que c'est des périodes assez familiales. Mais le Père Simon nous a dit, c'est pas parce qu'on a du mal à trouver des gens qu'il faut s'arrêter là, et du coup voilà, il nous a incité à recommencer en décembre. Et c'est vrai que c'est très beau d'accueillir ces personnes pendant ces périodes de Noël ou du Nouvel An, qui sont quand même des périodes souvent qu'on passe pas seul, Et donc, de savoir les accompagner durant ces périodes, c'est important. Du coup, normalement, on va reprendre en décembre cette année.
Donc, le premier sujet, c'est de trouver un lieu pour accueillir. Comment vous avez fait, là?
Alors, du coup, encore une fois, tout est centré avec le Père Simon. Donc, c'est pas une association en tant que telle. Hein. C'est un projet qui est dirigé par la paroisse, qui fait partie de la paroisse. Donc, c'est le Père Simon qui est responsable de ce projet-là, qui nous a délégué la responsabilité de mener tout ça. Mais c'est vraiment une association paroissiale, c'est pas une association en dehors de la paroisse.
Vous n'avez pas créé une structure, loi 1901, etc. C'est une association entre amis autour de la paroisse et donc du curé de la paroisse. Donc ça pourrait être dupliqué dans d'autres paroisses, comme à Paris, où il y a 50 paroisses qui interfèrent, c'est ça?
Exactement, il faut juste que le père, le prêtre ou le curé, soit disponible et ait le temps de prendre un peu de temps pour lancer ce projet-là.
Oui, mais il y a aussi la question du logement. Barthélémy, vous avez fait comment pour trouver des logements là? C'est chez vous, non?
Non. Alors, c'est plutôt Jean qui s'en est occupé, mais c'est l'association Saint-Vincent de Paul qui nous prête des locaux à Saint-Aubin, donc pas très loin de Saint-Étienne. Et ils ont même fait des aménagements pour nous accueillir, notamment une douche qu'ils ont fait construire.
Parce que l'enjeu majeur de là où on doit aller, c'est qu'il faut avoir une douche, parce qu'on aime bien proposer, même si à Paris il y a des accueils sans douche. Voilà, le mieux pour accueillir quelqu'un, c'est d'avoir une douche pour qu'il puisse se laver le soir et une cuisine. Et du coup, on trouve pas ça si facilement.
Bah ouais.
On a fait le tour de quelques.
Surtout dans le centre-ville.
Ouais. Mais du coup, on a la chance que la conférence à Vincent-de-Paul ait un local qui soit utilisé que la journée. Nous, c'est une association, on accueille que la nuit, le soir et la nuit et le matin. Et du coup, la journée, ce local est utilisé pour faire des distributions alimentaires. Et la nuit, il était actuellement inutilisé. Et c'était un vrai appart, un appartement. Bon, il n'y avait pas de douche, donc gentiment, ils nous ont construit une douche.
Donc, c'est un appartement à Saint-Aubin,
ouais.
Dans lequel vous pouvez accueillir combien de personnes?
Alors aujourd'hui,
quatre.
Il y a deux chambres, en fait.
Il y a deux chambres.
Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille quatre personnes en mettant deux personnes par chambre. Et il y a une sorte de salle à manger, salon, cuisine, qui sert donc de salle à manger, salon et cuisine, mais aussi de logement pour les personnes, les bénévoles qui viennent dormir avec les personnes de la rue la nuit.
Et donc le principe, c'est que il y a un bénévole qui vient systématiquement passer la nuit avec ces quatre personnes.
Un bénévole ou deux, en fait. Ce qui est même conseillé, c'est d'avoir deux personnes pour passer la nuit. Et ensuite, effectivement, c'est un accueil de nuit, comme disait Jean-Roch, à partir de 19h le soir jusqu'à 8h en semaine et 9h le week-end, le matin, avec des bénévoles qui se relaient pour apporter le dîner, passer aussi le moment du dîner. Il y en a qui viennent juste pour passer un moment là-bas.
D'accord.
Et des bénévoles qui restent toutes de 19h à 8h le matin et qui sont un peu les personnes référentes de la nuit.
Donc ils arrivent avec leur sac de couchage, avec un repas qu'ils vont partager avec...
Alors c'est les bénévoles qui s'occupent de faire le repas. Il y a un tableau sur internet et il y a des gens qui s'inscrivent juste pour la préparation du repas. Après, libre à eux de rester, ils peuvent rester aussi partager le dîner avec nous. Mais c'est vraiment une logistique et voilà, certains ne peuvent pas rester dormir. C'est surtout, c'est essentiellement pour les hommes, donc c'est surtout les hommes qui restent dormir. Et voilà, il y en a qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice et qui préparent le repas chez eux et qui l'apportent et ensuite qui viennent chercher les plats le lendemain. Voilà, c'est toute une logistique.
C'est quand même toute une organisation. Donc vous gérez ça via internet, j'imagine.
Ouais.
Donc avec une espèce de tableau où les gens se cochent, savent quand il faut une certaine flexibilité dans l'organisation.
Oui, après du coup nous on fait ça via Google Doc, via Google. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, c'est moins facile de... Voilà, on touche pas tout le monde avec ça. Ouais. Après pour l'organisation, pour nous c'est un peu plus simple parce que c'est quand même déjà quelque chose de lourd. Et il nous faut, du coup, ce que disait Barthélémy, il nous faut 6 personnes par jour. 2 personnes pour amener le repas le soir et le partager, 2 personnes pour dormir et 2 personnes pour partager le petit déjeuner le matin.
Et ça vous fait un volant de combien de bénévoles alors?
Je dois avoir une cinquantaine, soixantaine qui viennent plusieurs fois. Et après, la première année, je crois qu'il y en avait eu 200 ou 300 qui étaient venus, personne.
Et la seconde, ils sont tous de Saint-Étienne ou non?
Non, pas forcément. Non. Soit c'est des personnes qui sont... Soit c'est du bouche-à-oreille, des personnes qui ont entendu parler du projet et qui trouvent le projet intéressant. Soit il y a des gens d'autres paroisses alentour qui ont eu vent du projet et qui aiment s'y investir. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Il n'y a pas...
Quelles sont les qualités requises pour bien faire ça? Parce que ça ne doit pas être forcément évident. Je pense si c'est une jeune fille, par exemple, et qu'elle se retrouve avec des SDF qui sont peut-être avec des difficultés diverses ou variées. Il y a une sélection? Il y a une préparation?
Alors, des personnes de la rue, c'est sûr qu'il y a une forte sélection, parce qu'on n'est pas des professionnels et qu'il y a certains problèmes ou certaines caractéristiques qu'on ne sait pas gérer et accueillir. Par exemple, les personnes qui ont des gros problèmes d'alcool, des gros problèmes de drogue, ou des personnes même qui ont des... Alors ça, c'est pas un problème, mais qui ont des animaux, on peut pas les accueillir. Du coup, ça filtre quand même beaucoup de personnes.
Ouais.
Et puis les personnes qui sont violentes, forcément, enfin, on ne peut que accueillir des personnes qui sont, entre guillemets, gérable par des personnes qui ne connaissent rien comme nous, qui sommes des personnes lambda, hein, pas du tout professionnelles de l'accueil de personnes qui sont dans la galère. Et du coup, on a quand même une forte sélection qui a été faite par Barthélémy, principalement, et grâce à des associations avec qui on est en contact, qui peuvent nous rediriger des personnes qui leur semblent potentiellement OK pour venir déjà dans le projet et aptes à faire le job.
Ouais,
exactement.
Il y a plusieurs associations à Toulouse, notamment le Secours catholique avec l'Ostalada, l'accueil de jour, place Arnaud Bernard, et aussi la main tendue. Enfin, il y a plusieurs assos qui sont très actives à Toulouse, et voilà, on a réussi à avoir des contacts et du coup on a des liens avec ces personnes qui nous recommandent des personnes qu'on peut accueillir. Après, voilà, c'est jamais, même si la personne peut paraître bien, parfois ça colle pas, parfois voilà, il y a des...
Ouais. Et il n'y a pas une formation qui a été envisagée un peu pour...
Alors il y a des vidéos qui ont été tournées par l'antenne de Paris, justement sur comment dialoguer avec des personnes de la rue, comment être avec ces personnes-là. Et voilà, donc dans le mail d'inscription, on mettait cette vidéo. Après, il n'y a pas de formation à proprement parler, ou c'est un peu sur le tas, une formation sur le tas.
C'est un des manques du projet, parce qu'il est jeune, et du coup, c'est vrai qu'à Paris, régulièrement, il y a des séances d'information en amont du projet qui permettent à chacun de pouvoir mieux comprendre
comment
ça marche, et puis aussi à faire une séance un peu d'information, parce que d'aborder des personnes de la rue, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et nous, il y a des personnes, et même dans des amis jeunes comme nous, qui ont peur de ça. Et du coup, il y a aussi un peu une appréhension, parce qu'on sait pas qui va être en face de nous. Et du coup, il y a aussi
vous avez des filles qui viennent aider, ou c'est plutôt des couples?
Non, je pense qu'il y a une majorité de même, enfin, c'est proportionné. Il y a beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Et pour la nuit, forcément, il n'y a que des garçons pour des problèmes qu'on comprend tous.
D'accord. Mais il y a le temps du repas, etc. Et donc, les quatre personnes que vous accueillez, c'est toujours les mêmes pendant l'hiver ou ça tourne?
Non, ça tourne un peu par la force des choses. Alors, il y en a très peu qui restent les 4 mois. L'an dernier, je crois qu'il n'y en a eu qu'un qui est resté les 4 mois.
L'objectif premier, c'est de les accueillir 4 mois. Après, par la force des choses, c'est des personnes qui ne sont pas forcément très stables.
Ouais. Il y en a qui sont plus bien dans cet accueil et où c'est trop de contraintes pour eux d'horaire, de liberté, donc qui partent d'eux-mêmes. Et voilà, il y en a, comme disait Jean-Roch, qui ont des addictions et c'est pas compatible justement avec, avec cet accueil fraternel, et ça met en péril un peu l'équilibre de cet accueil. Et les autres accueillis peuvent en subir aussi les conséquences. Et du coup, il faut trouver le bon équilibre pour que...
Et puis, quand même, le point positif, c'est que certains, quelques-uns, pas beaucoup, mais dans les 2 ans, il y en a eu 2, 3, 4 qui ont réussi à trouver des solutions plus pérennes qu'hiver solidaire, donc juste pour l'hiver. Là, je pense à Morad l'année dernière qui a passé 1 mois avec nous, parce que voilà, c'était un moment de chute où il savait pas où aller. Et puis maintenant, il a retrouvé un boulot, il a repris la vie, donc il a eu besoin de cet accueil pendant un mois.
Oui, vous pouvez en fait servir un peu de lieu transitoire où dépanner les gens et vous les aider. Vous n'avez pas une aide à l'insertion dans le sens où vous n'allez pas faire de la formation pour leur permettre de trouver un boulot, etc. Mais en revanche, vous avez des réseaux quand même qui peuvent leur ouvrir des portes, j'imagine.
Ouais, c'est plus... nous, on dit plus que c'est un accueil, le temps de un peu de poser leurs valises et la journée d'en profiter pour faire leurs démarches ou pour faire un peu les démarches par eux-mêmes. Et je pense que ça serait un peu... un peu illusoire de dire qu'on pourrait les aider à complètement sortir de la rue. C'est aussi, enfin, c'est un autre, c'est vraiment un vrai métier, quoi. C'est les assistantes sociales, et aujourd'hui, ouais. On n'a pas cette structure-là.
Ouais. On en cherche d'ailleurs, on cherche une assistante sociale qui pourrait nous aider et venir régulièrement. On n'a pas encore trouvé, mais on est en contact. Et on a essayé la première année, hein, de trouver des solutions, parce que nourri de plein d'ambitions, mais malheureusement, en fait, c'était un peu un échec, et surtout, on leur a donné beaucoup d'espoir. Et donc ça a été dur pour eux de croire en fait en nous, et en fait on a essayé, on a tout donné, mais on n'a pas réussi. Du coup, les années suivantes, enfin cette année, l'année dernière, on a beaucoup moins travaillé là-dessus, parce qu'on voulait pas leur donner d'espoir, de faux espoirs, parce que voilà, on sait pas tout faire. Donc on a quand même regardé, mais avec Lazare ou avec le village de François. Mais notre objectif premier, et en plus ça garde ce côté fraternel, c'est vraiment de discuter avec eux, de leur donner un cadre agréable et justement pas de hiérarchiser
pendant l'hiver. Quoi, c'est
pendant l'hiver, voilà.
Exactement. Un cadre chaleureux, fraternel, et un peu où ils peuvent. Bah, la rue, c'est crevant, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ça, voilà, ça leur permet de poser leurs valises, de sentir bien, et après de retrouver un peu un souffle pour aborder leur démarche qu'ils ont en cours. En fait, c'est un peu un tremplin, quoi.
Ouais. Et vous, Jean-Roch, vous aviez à Paris, vous aviez pratiqué aussi dans une
paroisse.
Ouais. Ouais. Donc vous êtes celui qui a le plus d'expérience là, qui a vu comment ça pouvait marcher, puisqu'à Paris c'est une grosse machine finalement.
Oui, à Paris ça marche, c'est une grosse machine avec beaucoup plus de solutions du coup, post-hiver solidaire, avec un peu plus de moyens que nous, et plus de contacts. Et du coup, les fois où, du coup, les 2-3 années où j'ai participé à hiver solidaire à Paris, souvent, régulièrement, en tout cas dans ma paroisse, après voilà, chaque paroisse a ses caractéristiques, mais des solutions étaient trouvées pour les personnes après, et avec une sélection plus affinée aussi, avec des personnes qui restaient plus longtemps, et voilà, là où nous on a un peu plus de mal dans ce recrutement à trouver des personnes qui soient exactement le profil qui pourrait rester les 4 mois, adapté en fait à notre projet. Mais finalement voilà, c'est juste un peu plus de charge pour nous, parce que du coup on a des rotations, puis on a déjà à gérer des problèmes, mais en même temps voilà, c'est aussi on crée notre identité à Toulouse, qui n'est pas la même que Paris. Quoi.
Ça démarre. Ouais. C'est déjà formidable que vous ayez démarré ça. Et dernière question sur ce sujet, par rapport à vos contraintes, vous, professionnelles, parce que vous avez une vie professionnelle et familiale, vous êtes mariés tous les deux, pas trop difficile à gérer?
Alors déjà, nos deux femmes sont aussi impliquées dans le projet. Hein. C'est aussi des histoires
de couple.
Voilà. Ouais. Et je pense que en tout cas ma femme, je vais pas parler parce que pour ta femme, mais moi, Hélène aussi, elle faisait Hiver solidaire à Paris. Et du coup,
c'est Jean-Roch Augustin. Je dis pour nos auditeurs qui ne voient pas, donc Jean-Roch Augustin, votre femme à Paris a aussi eu cette expérience.
Oui, voilà, c'est ça. Donc elle connaissait déjà, puis c'est aussi voilà, quelque chose qui, c'était aussi son charisme, c'est pas un bon mot, mais voilà, ça c'était quelque chose dans lequel elle aime s'impliquer. Et du coup, bah, elle m'aide beaucoup dans ouais. mon rôle, enfin, où on s'aide tous les deux dans notre rôle. Et du coup, ça aide, mais après, aujourd'hui, nous, on va un peu passer la main parce que, bon, là, on a un tout petit, et c'est vrai que l'année dernière, on était responsable de l'association. Et ça nous prenait quand même beaucoup de temps, ça prend quasiment tous les soirs, en fait, où il faut y aller les voir. Pour créer justement ce lien, pour créer une sorte de fraternité, il faut être quand même assez présent. Eux, ils ont une grosse attente. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident à gérer dans la vie de famille. Mais du coup, c'est pour ça qu'on se retire un peu voilà, du projet. On s'implique un peu moins. On restera dans le projet, mais pas dans le rôle de.
Et vous, Barthélémy de Cassel-Bajac, votre épouse, à fond aussi?
Oui, elle a participé plutôt sur la partie logistique. Parce qu'il y a quand même aussi toute une partie où il faut un minimum pour le petit déjeuner, pour la préparation du lieu avant, on va dire, l'hiver. Donc oui, elle participe. Et voilà, c'est un peu la question, nous, actuellement, de savoir cette année si effectivement ça demande quand même beaucoup de temps. Et voilà, c'est ce qu'on... Voilà, on reprend ce projet. Ou voilà, en tout cas, on a la recherche aussi de gens qui nous épaulent et peut-être voilà, un peu faire un mélange... Un mélange d'âge pour avoir aussi des gens un peu plus...
Et à Paris, il n'y a pas de permanents, de salariés, de gens qui sont, non?
Et alors c'est
tout est bénévolant?
Il y a un diacre, je pense, responsable, je crois que c'est ou je ne sais plus comment ça s'appelle ça, un digaster ou un dia... Enfin, il y a une personne responsable à l'évêché de Paris, responsable de divers solidaires. Mais sinon, tout est en bénévolat, oui.
Ouais. Je crois qu'il y a, ouais, il y a peut-être des assistantes sociales qui sont salariées.
Comment s'appelle l'association au Captif La Libération.
Ah oui, c'est
qui,
ça.
Qui prête, enfin, entre guillemets, ou en tout cas, il y a un accord avec, au Captif La Libération pour avoir des assistantes sociales pour les paroisses hiver solidaires.
Bien, merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on parle aussi, dans le temps qui nous reste, d'un sujet qui est proche, évidemment, et que vous connaissez tous les deux, qui est celui des migrants. L'actualité nous montre qu'on a un problème avec l'accueil des migrants. On l'a vu sur les allées Jules Guesde à Toulouse et toute la polémique qui en a suivi. Et on sent bien que ce sont des solutions transitoires qui ont été trouvées et qu'on tâtonne un peu là-dedans. On vient d'entendre il y a quelques jours le président de la République et le gouvernement dire qu'il fallait trouver des solutions dans les campagnes. Ça a fait un tollé, ça a fait toute une polémique dans les médias et dans un certain nombre de communes même. Alors vous, avec votre lorgnette, votre vision, qu'est-ce que vous pensez de ces polémiques? Qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Barthélémy de Castelbajac.
Alors, ça va être c'est des avis après personnels, mais effectivement, nous, l'association, pour revenir à l'association Hiver Solidaire, on accueille, on a eu beaucoup de migrants aussi accueillis. Voilà, on accueille sans distinction de... Voilà, on n'accueille pas que des Français. Enfin voilà, il y a vraiment un accueil...
Vous vérifiez pas les papiers qui sont en règle
non.
ou pas?
Non, non, parce que justement, je pense qu'il faut accueillir tout le monde et surtout ceux qui sont dans la précarité. Et voilà, il n'y a pas vraiment de nationalité dans la précarité. Et c'est aussi un peu le message de l'Église d'accueillir les gens qui en ont besoin. Après, sur les polémiques actuelles, effectivement, sur les migrants, c'est plus un avis personnel.
Bien sûr.
Avec mais recul.
Qui nous
mais
intéresse.
Voilà, je pense que le souci, c'est d'accueillir ces populations, mais avec un vrai projet, quoi. Un vrai projet de pouvoir les accueillir dignement et d'accepter ce qu'on peut accepter comme population et en ayant une vision pour eux, d'un point de vue professionnel, de les accueillir avec aussi peut-être une vision sur une formation, sur un travail et pouvoir les remettre, les former
les
aussi.
Insérer.
Les insérer. Ouais. Et ça passe par la langue et par le travail, je pense.
Et Jean-Roch, quel est votre sentiment, vous?
Pareil, je suis un peu dans la même ligne que Barthélémy, mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux niveaux. Moi, je me suis toujours, sur ces problèmes, sur ces difficultés-là, il y a vraiment deux niveaux. Il y a un autre niveau de charité chrétienne où une personne dans la rue, on peut pas la laisser dehors, parce que voilà, quand il fait froid, une personne qui a faim, on peut pas la, voilà, il y a la charité chrétienne qui nous impose de l'aider. Et ça, c'est vraiment la première chose. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec Hiver Solidaire. C'est vraiment la volonté d'Hiver Solidaire, c'est cette charité chrétienne. De la donner aux personnes qui sont en bas de notre porte et qui ont des difficultés. Et après, du coup, il y a un niveau un peu plus politisé, donc comme ce qui se passe sur les allées Jules Guesde, où là, on a plus des combats politiques, des combats sur savoir la manière dont on doit accueillir ces personnes, donc accueillir les migrants, comment les insérer dans la population, comment les aider financièrement, en logement, en nourriture. Et ça, c'est vrai que c'est des enjeux politiques qui sont quand même difficilement où prendre position, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile.
Il est clair, il y a quand même beaucoup d'associations aussi, d'ONG qui sont là pour traiter le problème de l'insertion. Vous êtes en amont de l'insertion, mais ensuite, on ne peut pas dire aux gens, on vous accueille, on vous loge, on vous nourrit, et puis ça s'arrête là. On le sentait très bien à travers ce que vous disiez. Il y a aussi un moment où il faut se dire, bon, maintenant, le pas suivant, c'est de vous aider à trouver un travail. Ça va peut-être passer par de la formation, ça va passer par d'abord être sur des lieux où il y a du travail. Hein. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, dans les campagnes, c'est peut-être pas l'endroit idéal où les gens vont s'insérer économiquement, socialement, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois disponibles. Donc, a priori, c'est plutôt dans les villes qu'on peut leur trouver un travail, sauf si ce sont des agriculteurs. Mais alors, il y a des emplois saisonniers, hein, au moment des vendanges, de ramasser les pommes, ramasser les fruits et légumes, etc. Mais bon, ça reste des emplois précaires. Donc, c'est vrai que tout ça nécessite une réflexion. Et moi, je trouve que déjà, c'est formidable que notre charité chrétienne nous dise, comme vous venez de façon si belle de nous le dire, on ne peut pas laisser quelqu'un en bas de sa porte, en difficulté, sans rien faire. Et on ne lui demande pas s'il a des papiers. On lui dit juste de monter. Merci à tous les deux. Merci Barthélémy de Castelbajac. Merci Jean-Roch Augustin pour votre témoignage. Et bonne continuation.
Merci.
Merci beaucoup.